Nous avons aujourd'hui Danielle Sturck, qui est une scénariste, une productrice et une directrice franco-manitobaine de talent. Elle a travaillé pour de nombreux projets tels que Edgar, Soul Sisters ou encore Treaty No. 3, pour n'en citer que quelques-uns. Danielle crée des documentaires, des séries expérimentales, dramatiques et des émissions spéciales en direct à la télévision. Elle a également été nommée pour le prix Alan King pour l'excellence documentaire de la Guilde canadienne des réalisateurs et a reçu le prix du meilleur film expérimental et de la meilleure réalisation non-fiction au Festival du film de Yorkton pour son dernier film El Toro, qui a également remporté le top 5 du public at Hot Docs, top 10 Audience Choice au Gimli Film Festival, ainsi qu'au Vox Popular Media Art Festival. Nous allons d'ailleurs embrayer sur ce dernier projet encore en construction, El Toro. Bonjour Danielle,
bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, Rélie.
Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à El Toro? De quoi ça parle?
Bien, la série El Toro, sur laquelle on travaille présentement en pré-production, est inspirée du documentaire El Toro dont vous venez de parler, qui a été créé en 2018. Et puis, finalement, c'est un beau projet. Donc, dès le début, quand j'ai entendu mes tantes et mon oncle et mère et père parler de ce café, ce resto diner dans le cru de, comme va dire mon personnage principal, Rosanne Charbonneau, dans le tout de cul de Saint-Boniface, sur l'avenue Marion et entre, dans le temps, Canada Packers puis Maple Leaf Foods, donc des usines, des abattoirs, le train derrière, les vaches et les cochons qui étaient tous restés là. Alors, l'odeur était assez forte. Et puis, mes grands-parents avaient un café là, un truck stop diner. Donc, les camionneurs venaient à tour de rôle. Puis, c'était plein. On voyait même pas la bâtisse tellement il y avait des camions qui le couvraient. Tellement c'était populaire parce qu'on s'est dit, pour très peu d'argent, on avait beaucoup de bouffe. Donc, les camionneurs allaient là puis ils pouvaient stationner. Alors, il y avait tellement d'histoires dans cela que j'ai tout de suite pensé que ça serait vraiment le fruit. Il y avait beaucoup de graines pour une belle histoire dramatique et en fiction. Donc, c'est inspiré par, donc l'arc dramatique ressemble peut-être à la famille à ma mère, bien que les personnages ne le sont pas. Le contexte, c'est la franco-manitobanie de l'époque, dans les années 60. Ça va traiter, évidemment, dans un contexte sexiste de l'époque, raciste de l'époque. Et puis, pour nous, franco-manitobains, à l'époque, c'était plutôt racisme envers les personnes autochtones et métisses. Donc, ça, c'était quelque chose que j'ai entendu, moi aussi, dans ma famille blanche. Donc, ça, c'est quelque chose qui va survenir aussi. Évidemment, la toile de fond, c'est les droits civils aux États-Unis, la guerre au Vietnam, il y a tout ça. Au Québec, la Révolution tranquille. Donc, il y a tout ce contexte arrière-fond dans lequel va vivre nos deux personnages principaux, Rosanne Charbonneau, qui a 18 ans au début, et puis qui gradue de l'Académie Saint-Joseph, qui est juste derrière en vol 91 ici, où ma mère a gradué, ma belle-mère aussi. Et ça va terminer avec elle qui rentre au collège de Saint-Boniface 2 ans plus tard, une des premières femmes. Donc, le collège a reçu ses premières étudiantes en 59-60. Donc, nous, notre histoire débute en 63 jusqu'à 65. Donc, voilà, c'est pris sans nom. C'est pris 67 où il y a eu énormément de mouvements pour la francophonie hors Québec, puis une identité francophone qui s'est commencé vraiment à se dessiner moins comme un Canadien français, un Canadien français, puis on était tout inclus avec d'un océan à l'autre, mais là, les Québécois se sont identifiés vraiment comme un peuple en soi, puis nous, dans l'Ouest, dans les recherches que j'ai faites, en tout cas, on se demandait qui étions-nous alors, et puis c'était cette époque-là que donc, je trouve vraiment très très intéressant. On cachait nos noms, les Rénald étaient des Ray, les Jacques étaient des Jack. Legal Locksmith était Legal Locksmith et pas Legal. Je veux dire, il y avait vraiment un temps, même maintenant, j'ai entendu, j'oublie son nom, mais une cinéaste chanteuse saskatchewanaise que vous connaissez peut-être, mais elle a fait un film sur sa famille puis la francophonie. Puis dans leur village en Saskatchewan, il fallait cacher son français, même il y a une génération de son père, parce que sinon, les anglophones ne venaient pas. Alors, la survie des entreprises privées, à cette époque-là, dépendait beaucoup. Le sentiment anti-français existait assez profondément. Et puis, c'est là-dedans qu'on va travailler.
Donc, finalement, c'est une histoire avec un noyau de faits réels et puis un tissement finalement tout autour de récits finalement un peu tournés sur des personnages fictuels. Qu'est-ce qui finalement nourrit toute cette écriture autour de ces personnages?
Ben à la fois évidemment l'inspiration immédiate des histoires, donc c'est plus des anecdotes. Ensuite, j'ai fait la recherche et rencontré quelques femmes âgées de 75 à 80 ans ou un peu plus qui ont été à l'Académie Saint-Joseph, des histoires de tantes, de belles-mères, de mamans, d'amis de cette époque-là, de femmes de notre communauté qui ont gradué cette école-là. Comment c'était avec les religieuses, quel genre de cours est-ce qu'ils prenaient, etc. Jacqueline Blais aussi informe certains éléments de... est un très bon sounding board pour moi aussi, côté historique. L'inspiration vient aussi des jeunes femmes que je connais aujourd'hui, qui, oui, ça fait plus de 50 ans, l'histoire de El Toro, la série, mais est-ce qu'il y a, évidemment, beaucoup de choses ont changé, mais le sexisme, le racisme qui existe toujours, c'est pour moi très intéressant de voir cette comparaison-là, de voir comment loin est-ce qu'on a été. Évidemment, la composition de Saint-Boniface, la francophonie manitobaine, elle a changé énormément. Donc, dans ce contexte-là, par exemple, tous les nouveaux arrivants qui viennent d'autres pays, c'était des pays blancs à ce temps-là, donc des Polonais, des Ukrainiens. Alors, il y avait quand même du racisme entre les groupes, mais c'était les Italiens, etc. Mais c'était pas comme aujourd'hui, où vraiment le visage est très, très changé. Donc, ça malheureusement n'adresse pas ça encore dans les années 60, mais ça serait pour un autre film, je pense.
J'ai entendu dire que vous recrutiez pour de nombreuses positions pour ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet?
Oui. Donc, il y a une distribution qui se fait. Donc, un casting actuel. Toute cette semaine, on est en casting. Donc, si le monde n'a pas déjà envoyé leurs photos à casting.eltoro@gmail.com. Donc, casting.eltoro, toute petite lettre minuscule, @gmail.com. Vous pouvez envoyer votre photo et numéro de contact, votre âge, ça aide aussi. On sait très bien que, on peut dire entre 40 et 50 ans, on peut dire entre... Les plus jeunes, c'est important par contre, parce qu'on a les membres de la famille, on a les deux parents, ils ont autour de 40 ans. Nous avons les deux personnages principaux, les sœurs, Georgette et Rosanne, elles ont 17 à 19, 18 à 20 ans. Et ensuite, une fille de à peu près 10 ans. Et un petit garçon d'environ 5-6 ans. Donc, voilà. Les jeunes peuvent jouer plus jeunes s'ils ont... mais la fille, elle est préadolescente. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, dépendamment de nos corps et notre forme et tout, on peut jouer plus jeune que nous sommes. Même chose avec le garçon. Si on a 8 ans, mais on a l'air plus jeune, ça marche aussi. Mais vraiment, un rôle qui va être difficile à remplir, c'est un francophone métis. Il y en a plein, on le sait très bien. Mais qui a des traits autochtones, des traits visuels autochtones. Donc, un des jeunes hommes principaux, un des amoureux des filles, Napoléon, qui vient de Saint-Laurent dans l'histoire fictive, il vient à Saint-Boniface pour étudier. Et puis, j'ai consulté du monde, justement, ça se passait dans le temps. Et puis, dans mon histoire, il se fait traiter de façon raciste à cause de son look. Alors, de quoi il a l'air? Alors, ça, c'est plus difficile. On a beaucoup de métis qui peut-être n'ont pas un certain trait, mais ça c'est difficile de trouver quelqu'un qui a ces ressemblances là visuelles parce qu'il se fait vraiment taxer à cause de son apparence et qui est francophone d'ici. Donc ça c'est un défi. Alors si jamais il y a des jeunes hommes là âgés de 16 à peu près 25 ans qui vont jouer un rôle de quelqu'un qui a peut-être 18 ans qui parle français, qui ont disons un français d'ici. Et puis, de l'époque, ça serait plus un français moins franglais qu'on a aujourd'hui. Ça serait plus un accent un peu plus soutenu, un français plus soutenu, parce que les élèves étaient enseignés par les jésuites, les religieuses, etc. Donc, le français était un peu plus soutenu qu'aujourd'hui, que mes filles, disons, qui ont des sauts et des anyway tout partout. Il y a moins ce parler-là à cette époque-là, ce que j'ai compris. Mais ce personnage, Napoléon, est très, très important dans l'histoire. Il n'a pas énormément de parler, mais il a énormément de présence. Il est très important. Il a un rôle pivotal dans la série. Donc, s'il y a des gens à Saint-Laurent, s'il y a des gens d'ici qui connaissent du monde, qui ont ce profil-là, je les encourage, même s'ils n'ont aucune expérience, de se prononcer puis de s'essayer. On est là pour que vous puissiez réussir. On est là, on a fait des ateliers d'édition, on a fait des ateliers. On veut former notre communauté ici pour pouvoir non seulement faire El Toro, mais faire d'autres productions par la suite. Production Rivard en fait beaucoup. Les Wookiees font. Il y a beaucoup de gens qui font en anglais aussi, évidemment. Donc, profitez-en de l'expérience même de faire une audition, même si on n'a pas le rôle. On m'a dit récemment qu'à Toronto, les comédiens professionnels en font 25 auditions pour recevoir un rôle. Donc, ne vous découragez pas. Souvent, c'est est-ce qu'ils ont les mêmes couleurs de yeux que les parents? Est-ce que la sœur numéro 2 est beaucoup plus grande que la sœur numéro 1? Donc, ça se peut. Alors, souvent, c'est là-dessus qu'on fait des choix. On a aussi les diffuseurs qui ont un mot à dire dans les choix de distribution. Mais celui-là, puis il y a aussi Napoléon a un papa. C'est une petite scène, deux petites scènes, mais Napoléon, son papa, on fait une petite visite à Saint-Laurent dans l'histoire, et puis il fait la pêche et tout. Alors, notre chère Georgette, elle est émerveillée. La petite fille de ville est émerveillée par cette expérience de campagne, de grand ciel et d'hiver dans ce pays-là. Alors, de Saint-Laurent, le pays de Saint-Laurent. Alors voilà, ça c'est deux personnages qu'on est à la recherche dans la francophonie, qui nous aideraient beaucoup si vous passez le mot.
Ben, on est en radio, donc j'imagine que le mot va passer à travers les ondes. Quelles sont les étapes qu'il reste à faire pour que le tournage et le montage soient terminés? Comme on sait que ça va être sur une très longue période de temps, mais...
Oui, nous sommes en pré-production, production officielle, débute, donc on est déjà en casting tout de suite. Donc on sera en audition cette semaine, la semaine prochaine pour les rôles principaux. Ensuite, on continuerait en audition pour les rôles secondaires. Des rôles parlants, plus tard, ce serait de la figuration. Donc, tous ceux et celles qui ont participé en offrant leur nom et en faisant une audition seront sûrement les premiers à être offerts une journée ou deux, qui, s'ils n'ont pas eu un rôle, comme figuration. Mais mi-juillet, mi-août, c'est la production, la pré-production officielle. Donc, toute l'équipe est là et tout le monde travaille à temps plein pour préparer les costumes, lieu, décor, tous les kits. Et mi-août, 15 août, jusqu'au 5 octobre, on est en tournage, avec quelques jours après aussi, parce que je vais intégrer quand même des petites animations et des éléments stylistiques pour représenter l'air qu'on ne peut pas faire avec un budget comme nous avons. On ne peut pas transformer l'avenue Portage en 1960, mais on peut le faire de façon créative, puis c'est là-dessus que je vais me pencher en octobre aussi.
Merci beaucoup. Et dernière question, quel est l'aspect qui vous plaît le plus dans votre travail?
Ah, comme réalisatrice, scénariste?
Ah oui.
Oui, ou ce projet-ci?
Dans ce projet-ci.
Ah, ce projet-ci. Ben, ce projet-ci, c'est vraiment un point culminant pour ma carrière. C'est un privilège de pouvoir et à la fois écrire une série et à la fois la réaliser. Ça, c'est vraiment un grand, grand privilège. Donc ça, c'est et un gros marathon. Faut le dire, ça prend l'énergie. Mais ce que j'ai ressenti récemment avec l'équipe qui commence à se former, c'est qu'il y a une grande énergie qui vient avec le monde qui commence à se greffer au projet. Et puis leur intérêt, leur excitation, leur amour pour l'époque, leur amour pour cette histoire ou les personnages m'inspirent énormément puis m'encouragent énormément. Donc j'adore à la fois l'écriture où je suis seule dans ma tête et puis je peux imaginer des choses. Mais ensuite, vraiment, aller de là jusqu'à voir le produit final qui s'en vient, là, en montage, finalement, puis à la télé au printemps prochain. Ça, c'est pour moi un grand climax de ma vie professionnelle. Donc, je remercie beaucoup Manitou Media et Radio-Canada. Ça va être la première production manitobaine en français qui est uniquement produite par une... Donc, c'est pas une coproduction avec une compagnie de production québécoise. Donc, c'est vraiment notre histoire créée par nous au Manitoba, puis ça, c'est assez... Je suis très, très fière de ça. Et puis, encore une fois, je pense qu'on, comme équipe, on a tous grandi, que ce soit Manitou Media, l'équipe qui se greffe, moi, on a tous grandi, et puis on est arrivé à ce point-ci, donc c'est très excitant.
Bien, merci d'être venu dans nos studios ce matin, Daniel. Et puis, on vous souhaite le meilleur succès pour El Toro et pour les castings également.
Merci, Aurélie.
Cet entretien a été rendu possible grâce au programme IJL, Initiative Journalisme Local.